C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Yannick Bouchard.
Ça fait longtemps que je voulais l'avoir à l'émission, que je voulais l'avoir en entrevue. Quadruple médaillé d'or olympique et elle va faire son entrée au Temple de la renommée du hockey en novembre prochain. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est une légende que vous avez dans vos oreilles aux quatre coins du Québec. Caroline Ouellette est avec nous. Bonsoir Caroline, ça va bien?
Oui, ça va bien, merci.
Content que tu sois là.
Moi aussi.
Vraiment content que tu sois là. J'ai eu un peu la frousse à un moment donné parce que là, je me demandais, OK, on a-tu une bonne communication, mais tout est correct. Elle est là puis elle est prête peut-être, à répondre à vos questions, évidemment, si vous en avez, au 98985. As-tu eu un été occupé?
Oui, quand même, mais un été vraiment agréable. On en a profité en famille pour faire un beau voyage en Europe de 20 jours. On a visité la Suisse, l'Italie, puis ça s'est terminé en Finlande où j'ai eu le grand honneur d'être intronisée au Temple de la renommée de l'IIHF. Mm-hmm. Donc, on a fait ce voyage-là avec nos deux filles de 3 et 5 ans. Très différent de la dernière fois qu'on est allé en Europe avec nos sacs à dos en 2010.
Ça change, hein?
Oui, ça change vraiment nos priorités, mais c'était vraiment magnifique et merveilleux.
Bon, tu parles du Temple de la renommée de la Fédération internationale de hockey sur glace. Ça a été fait, ça, à la conclusion du championnat du monde au mois de mai dernier. Comment t'as accueilli cet honneur-là?
Ben, tu sais, pour moi, ma carrière, ça s'est passé de façon principale avec l'équipe canadienne sur la scène internationale. Tu sais, j'ai fait 12 championnats du monde. Donc, ma carrière, c'est surtout ça, le hockey international. Donc, de savoir, de connaître tellement de femmes incroyables avec qui j'ai joué ou contre qui j'ai joué, puis de savoir que je suis reconnue parmi une des grandes qui a pris part à des tournois internationaux, c'est sûr que c'est vraiment un super bel honneur. Puis je sais qu'il y en a tellement d'autres femmes qui seraient méritantes de ce bel honneur-là. J'ai adoré les gens que j'ai eu la chance de rencontrer là-bas, Henrik Zetterberg, Christophe Alluet, donc des gens que j'ai suivis toute ma jeunesse qui m'ont inspiré. Tu sais, d'entendre leurs histoires, leur parcours dans le hockey, c'est vraiment des moments qui sont très spéciaux.
Tu parlais de ton été qui a été occupé, le voyage, puis tout ça, puis tu me disais que t'as une école de hockey maintenant qui connaît un succès fou. Raconte-nous un peu, et en collaboration avec Marie-Philippe Poulin.
Oui, exact. En fait, ma première inspiration de faire ça, ça a été France Saint-Louis. C'est vraiment mon idole de jeunesse. J'ai fait son école de hockey à l'âge de 12 ans. Puis quand j'ai fait mon premier championnat du monde à 19 ans, ben, j'ai commencé aussi, on est devenus des bonnes amies, j'ai commencé aussi à travailler avec elle dans ses écoles de hockey, puis je voyais comment fort elle travaillait, comment de travail que c'était. Je me souviens qu'elle passait des fois 9 heures dans ses patins, sans pause, à trois groupes back-to-back.
Wow.
Donc en 2009, en 2008, j'ai lancé mon entreprise de camp de hockey, puis finalement en 2018, je me suis mis partenaire avec Marie-Philippe Poulin. Je sentais qu'elle avait un intérêt aussi de s'impliquer dans le développement de notre sport. Puis vraiment, maintenant, c'est une merveilleuse collaboration. Marie-Philippe, c'est un génie du développement des habiletés. Puis, tu sais, c'est une personne merveilleuse dans ce rôle-là. Puis c'est pour ça que je suis vraiment pas surprise que le Canadien de Montréal l'a engagé dans ce type de rôle-là, parce que pour elle, tout est naturel, tout est facile, mais elle a aussi cette habileté-là que pas tous ont de l'enseigner. Mmh. Puis de décortiquer les mouvements pour que les jeunes l'apprennent, ou les adultes, parce qu'on fait aussi des camps adultes. Donc cet été, ça a été, oui, un véritable succès. J'ai dû refuser malheureusement beaucoup, beaucoup de personnes, mais que ce soit des jeunes filles ou des adultes, on a autant de plaisir à le faire, à travailler avec d'autres membres de l'équipe nationale, dont Laura Stacy, ma conjointe Julie Chu, plein de joueurs que je coach à l'Université Concordia. Donc c'est le fun de rencontrer les joueurs qui veulent s'améliorer, peu importe leur niveau d'habileté ou leur âge.
Et tu disais que il y avait tellement de demandes qu'il y avait une liste d'attente. Mais c'est vrai que c'est pas très très long vos camps, par exemple. Hein? C'est combien de temps à peu près que vous offrez?
Ouais, c'est ça. On a un camp élite de 5 jours, puis 2 camps sur 3 jours le week-end.
Et les gens viennent de partout. Ouais, pas juste absolument. Du Québec, là.
On a plusieurs Américains. On avait des personnes de Seattle, même de Floride cette année, de Boston, de New York. On a un gros groupe qui vient toujours de Colombie-Britannique. Même chose Ontario. Donc, c'est vraiment spécial de voir ça. On enseigne autant en français qu'on enseigne en anglais. On a un groupe de femmes tellement passionnées qui vient des Laurentides, qui s'appelle les Palettes Roses. Ils sont une vingtaine qui viennent. Eux autres, ils ont non seulement commencé à jouer au hockey, mais commencé un groupe de jeunes filles qui s'appelle aussi les Mini Palettes Roses. Mm-hmm. Puis c'est dans les Laurentides, puis on crée ce programme-là pour les jeunes filles du coin. Puis ça, c'est le genre de choses qui nous rend hyper fiers parce que, tu sais, on sait qu'en région, c'est plus difficile, le hockey féminin. Donc, on a besoin de des gens comme ça qui sont dévoués, qui sont passionnés, puis qui veulent offrir ces opportunités-là à ces jeunes filles-là.
Mais c'est votre notoriété aussi qui fait en sorte qu'il y a plusieurs personnes de partout dans le monde qui veulent assister ici à votre école de hockey?
Ben, je pense qu'au cours des dernières années, là, tu sais, Marie-Philippe, je suis sûre qu'elle se promène en ville, puis tout le monde la reconnaît. Fait que ça, je pense que c'est un peu l'évolution du hockey féminin. Maintenant que tu sois américain, où tu sais, on avait même une jeune fille du Mexique cette année. Marie-Philippe Poulin est connue. Tout le monde sait que c'est la capitaine de l'équipe canadienne, que c'est la meilleure joueuse du monde. Tu sais, j'ai une jeune américaine au camp qui est venue me voir, qui m'a dit, mais je me sens mal, mais ma joueuse préférée, c'est Marie-Philippe Poulin. J'ai dit, t'as pas à te sentir mal, sais-tu quoi? Bientôt, il va y avoir une ligue professionnelle, puis peut-être que Marie-Philippe va jouer aux États-Unis, puis t'as le droit d'avoir ta joueuse préférée qui est une Canadienne ou une Américaine ou une Suédoise, ça peu importe, c'est la personne avec qui tu as plus d'affinité, que tu connais, que tu aimes le plus le style de jeu. Donc, peu importe où elle vient, ça peut être ta joueuse préférée.
Mais toi aussi, Caroline, on doit te reconnaître, je veux dire, quand tu te promènes. Non, mais je veux dire, t'as marqué l'histoire du hockey féminin ici au Canada.
C'est gentil, merci.
Non, mais c'est vrai, je veux dire, les statistiques parlent d'elles-mêmes, les chiffres parlent d'eux-mêmes aussi.
Ben, c'est sûr que pour moi, quand je repense, ça a été tellement une aventure folle et incroyable. Puis, tu sais, je retourne toujours à... J'ai failli jamais jouer au hockey parce que ça m'a pris 2 ans convaincre mon père de me laisser jouer, tu sais. Puis, je peux pas imaginer ma vie sans le hockey. Puis je sais qu'encore aujourd'hui, il y a des filles qui vivent ça. C'est pour ça que toute ma vie, j'ai eu cette motivation-là de vouloir créer des activités, créer des programmes. J'ai créé la célébration hockey féminin qui est un OBNL pour favoriser le développement du hockey féminin au Québec parce que je veux que les filles essayent le hockey, les filles qui ont l'intérêt, qui apprennent à patiner. Puis tu sais, je rencontre plein de femmes de mon âge ou un peu plus vieilles qui me disent, moi, j'aurais tout fait pour jouer au hockey, mais je pouvais pas. L'association mineure ne voulait pas de moi, mes parents ne voulaient pas. Puis ça m'a toujours gardé extrêmement motivée de pouvoir offrir des opportunités pour les filles et les femmes de jouer au hockey.
Mais 2023, le hockey féminin se porte beaucoup mieux qu'il y a 10-15 ans, même si on est encore à travailler sur une ligue professionnelle de hockey féminin. Ça prend du temps, mais on sent qu'il y a de plus en plus d'adeptes, non?
Oui, absolument. Puis je pense que là, on y est rendu, puis ça va fonctionner. Premièrement, on a un investisseur avec beaucoup, beaucoup de moyens financiers qui a déjà investi dans le sport professionnel masculin et féminin. C'est un propriétaire d'une équipe de la WNBA. Donc, je pense qu'il comprend que possiblement, il va devoir investir quelques années avant que vraiment ça rapporte. Mais je suis convaincue qu'on va y arriver, que ça va rapporter. Parce que une fois qu'on regroupe les meilleures joueuses, non seulement les meilleures nord-américaines, mais les meilleures européennes aussi, là, qu'on connaît pas encore, qui sont des Suédoises, des Finlandaises, l'équipe de la République tchèque, Tchétchia. Il y a des joueuses tellement prometteurs là-dedans qu'on connaît pas encore, qui sont hyper jeunes. Quand on va les faire jouer avec les meilleures américaines, les meilleures canadiennes, le calibre va continuer de s'améliorer. Ça va être du hockey qui va être rapide, qui va être excitant, qui va être intense, parce que je peux vous assurer que les femmes, on prend pas de chiffre de congé. On est toujours à fond. Peu importe le score, on joue avec la même intensité, la même passion. De façon générale, les athlètes féminines, on a toujours été proches de nos amateurs. Quand on jouait avec les Canadiennes de Montréal, avec la Ligue canadienne de hockey féminin, à la fin, on réussit à attirer quelques milliers de personnes. On faisait toujours des séances d'autographes après les matchs, puis c'est ce que les gens appréciaient. Je pense que malheureusement, pas tout le monde a nécessairement les moyens d'aller aux Canadiennes de Montréal, mais il y a plein d'amateurs de hockey qui ont les moyens ou qui veulent aller voir du hockey qui est excitant, où ils peuvent se sentir proches ou en connexion avec les des joueurs, amener leur famille aussi. Tu sais, je l'ai toujours dit, par exemple, ma passion pour le Canadien de Montréal est pas limitée à ça. Je peux autant adorer les Canadiennes de Montréal que je vais adorer le Canadien de Montréal. Je peux autant les suivre un et l'autre, puis être fier que ce soit mon équipe. Puis honnêtement, j'ai tellement hâte de voir la nouvelle ligue, le calibre et toute l'organisation qui va avoir derrière ça. Je suis convaincue que notre heure est arrivée, que le hockey professionnel va avoir du succès.
Tu parlais d'un propriétaire qui a les poches profondes. Tu parles du copropriétaire des Dodgers de Los Angeles, c'est ça, M. Mark Walter. Est-ce que il y a déjà eu des discussions ou des tentatives avec M. Jeff Molson de justement qui s'implique dans l'instauration d'une ligue professionnelle de hockey, mais pas seulement au niveau des infrastructures, mais aussi au niveau monétaire dans une ligue comme celle-là?
Ben honnêtement, Jeff Molson nous supporte depuis plusieurs années. T'sais, quand il y a eu la création des Canadiennes de Montréal, il était là, on a fait une conférence de presse ensemble. Cette année-là, on a joué un match au Centre Bell. En seulement 20 jours, on a réussi à attirer 8000 personnes. Jeff Molson et le Canadien de Montréal supportent l'équipe de Montréal depuis des années et des années. Je pense où il y avait la barrière, malheureusement, c'était l'existence des deux ligues qui se faisaient compétition, qui mélangeaient les amateurs, qui séparaient les ressources, qui divisaient les joueuses. Et là, malheureusement, c'est sûr que c'est extrêmement triste la façon que la PHF a fermé ses portes, sachant qu'il y avait une centaine, presque 200 joueuses qui avaient signé des contrats, quand même des contrats intéressants. Mais malheureusement, il fallait que ça arrive un jour ou l'autre. Il fallait qu'on ait une seule ligue unie où les meilleures joueuses vont réussir à percer et gagner leur poste dans cette ligue-là, peu importe où elles sont nées.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Il y a une question qui nous vient ici. En tant que femme, quel était ton plus gros défi dans le monde du hockey?
C'est une excellente question. Est-ce que ça vient d'un amateur ou d'un amateur?
Je ne sais pas. Si on le demande, pouvez-vous signer votre nom? On va le savoir quand tu vas nous donner la réponse.
Je dirais que toute ma vie ou ma carrière, j'ai eu l'impression de devoir me battre pour être crédible dans ce que je faisais. Dès le début, souvent dans mes conférences, je le raconte, surtout quand je parle avec des jeunes, au secondaire, j'avais pas d'amis, là. J'étais le gars manqué, la seule fille qui jouait au hockey, je m'habillais comme un gars, je rêvais juste du Canadien de Montréal, je jouais au hockey civil, fait que c'est pas comme si je pouvais être une des meilleures joueuses de hockey à l'école, puis tout le monde était là, wow. Fait que j'avais genre 3 amis au secondaire, là. Fait que, j'ai fait mon chemin parmi les gars, j'ai joué de 9 ans à 17 ans avec les gars, j'ai tout entendu, j'ai joué avec la mise en échec complète. Puis tu sais, après, avec l'équipe canadienne, puis tu sais, encore aujourd'hui, tu regardes les forums là, où les gens, ils n'ont pas vraiment à signer leur nom, puis tu sais pas c'est qui, les commentaires, c'est affreux encore aujourd'hui. Toujours la comparaison entre le hockey féminin et le hockey masculin. Fait qu'au cours de ma carrière, mes matchs préférés, c'était contre les Américaines, parce que c'était l'autre meilleure équipe du monde, puis contre les garçons. Fait que souvent, avec l'équipe canadienne, on jouait contre du Média 3 ou du Junior 3 pour se préparer. Puis pour moi, ces matchs-là, c'était une opportunité de prouver qu'on méritait de jouer au hockey puis qu'on était aussi capable d'eux. Puis bien souvent, les gars, surtout les Junior 3, ils étaient plus gros, plus forts. Ils lançaient définitivement plus fort que nous, mais c'était notre jeu d'ensemble puis notre discipline dans nos structures qui nous permettait d'être dans des matchs serrés, même d'en remporter. Puis tu sais, souvent, après les matchs, les joueurs étaient vraiment impressionnés. Ils pouvaient pas croire comment on était bonnes collectivement. Tu sais, je me souviens d'avoir joué contre Jordan Eberle puis d'avoir parlé avec lui après le match. Fait que tu sais, chaque petite victoire comme ça faisait qu'on gagnait en crédibilité. Puis tu sais, aux Olympiques, j'ai échangé avec Sidney Crosby, Jonathan Toews, puis c'était des grands amateurs de ce qu'on faisait. Tu sais, Jonathan Toews me disait aux Olympiques de Sochi, vos matchs sont plus physiques que les nôtres. Tu sais, vous avez pas de mise en échec, mais c'est plus intense que nous. Mais tu sais, c'est sûr que tu regardes les meilleurs joueurs de la Ligue nationale aux Olympiques, ils jouent au hockey là, c'est pas une question de se défoncer dans la bande. Ça devrait être ça le hockey, puis ouais, c'est ça normalement la plupart du temps quand t'as les meilleures équipes une contre l'autre, les joueurs les plus talentueux. Bref, ça a été un peu ça mon combat, puis ça le reste parce que...
Mais pourquoi encore aujourd'hui le hockey féminin est regardé de haut par ben du monde.
Il y a toutes sortes d'éléments. Il y a pas de bataille, il y a pas de mise en échec, mais il y en a. Il y a plein de contacts physiques. Tu sais, des fois, ça, je trouve ça frustrant parce qu'à chaque match, on doit s'adapter à l'arbitre ou aux deux officiels qui sont là. Mmh. Il y en a qui laissent tout passer. Il y en a qui collent les matchs très serrés. Moi, honnêtement, j'aimerais ça quasiment que ça soit permis au moins le long des bandes, que ce soit clair, noir sur blanc, si tu as le droit là. Tu sais, sans avoir la grosse mise en échec où tu prends ton élan dans le milieu de la glace, mais de permettre aux joueuses de jouer physique.
Parce que ça demeure un jeu physique.
Ben
là,
oui,
okay.
Exact. Puis tu veux, que ce soit offensivement ou défensivement, prendre ta ligne, utiliser ton corps, montrer que tu as cette force physique-là, créer le contact avec ou sans la rondelle. Je pense que ça simplifierait le tout où on n'aurait pas toujours à s'adapter. Des fois, il y a des matchs au hockey international où il y a, tu sais, 10-12 pénalités, c'est trop, là. Athlète, tu veux gagner un match à 5-5. Tu veux que la meilleure équipe à 5-5 l'emporte. Tu veux pas que ça devienne un match d'avantages puis de désavantages numériques. Fait que, tu sais, pour moi, j'ai toujours eu comme mission personnelle de, premièrement, je dois amener des nouvelles personnes dans les estrades pour qu'ils nous voient en personne. Parce que c'est aussi, n'importe quel sport, c'est plus beau en personne, c'est plus rapide, c'est plus intense. Même tu vas au Centre Bell en personne, c'est bien plus le fun qu'à télé, puis c'est le fun quand même à télé, mais c'est la même chose avec tout. Tu sais, je me souviens d'avoir vu le ski de boss en personne la première fois. C'est à pic,
spectaculaire, ça, ben oui.
Mais ouais. À la télé, ça a l'air, tu sais, pas flat, mais plus.
Ça va vite, mais sans plus, là.
Ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est la même chose avec le hockey féminin. Puis, tellement de personnes au cours de ma carrière qui sont venues nous voir étaient là, waouh, je peux pas croire comment c'est bon, je vais revenir. Fait que, tu sais, c'est pour ça, là, on y est arrivé, il y a beaucoup plus de personnes qui suivent le hockey féminin. Puis, toutes les joueuses sont connues. T'sais, imaginez, on a Marie-Philippe qui joue avec les autres meilleures joueuses. C'est tout mélangé, là, les meilleures Canadiennes, les meilleures Américaines. Mm-hmm. Ça va vraiment être du beau hockey. Puis, je vais être la première à le suivre.
Ben, quand on parlait tantôt de la nouvelle Ligue professionnelle féminine, on parle de janvier prochain. T'sais, tu me dis, oui, on va y arriver. Il n'y aura pas d'embûche. Les filles vont être payées comme il faut. Ils vont être traités comme si c'était une Ligue d'hommes. Il n'y aura pas d'ambiguïté. Tout va être correct, tout va être parfait. Ben, peut-être pas tout va être parfait, mais tu comprends ce que je veux dire?
Ouais,
il y aura pas de quand je parle d'ambiguïté, là, tu sais, que vous soyez payé de la même façon que si c'était une Ligue d'hommes, parce que ça revient souvent aussi, ça, dans les conversations.
Ouais, mais je pense que tu dois commencer quelque part. Puis je pense pas que nos athlètes s'attendent à gagner 8 millions
non.
ou 10 millions comme Austin Matthews ou 12, peu importe ce qu'il vient de signer.
13,25.
Merci. Je savais que tu le saurais. Bref, ça commence avec quand même des bons salaires. Puis je pense que la Ligue est à développer. Tout ce qui est autour est à développer. Les partenaires sont à développer. Est-ce que ça va être parfait en partant? Non. Mais on a les bonnes personnes derrière la Ligue, incluant le propriétaire que tu as mentionné, mais aussi Billie Jean King qui est impliqué. Ils ont ouvert les postes pour les directeurs généraux. Je sais que l'application pour les entraîneurs aussi. C'est sûr que ça sera pas parfait au début. De la même façon que n'importe quelle ligue qui commence, il y a des choses à changer, à améliorer. Il y a tellement d'aspects à considérer, ça sera pas parfait. Donc, je pense que la Ligue va évoluer plus les mois, plus les semaines avancent. J'espère et je souhaite que ils vont protéger certaines joueuses dans des marchés. Comme, tu sais, pour moi, Marie-Philippe Poulin doit jouer à Montréal. On doit commencer la Ligue de cette façon-là. Protéger 2-3 joueuses par franchise pour s'assurer que les médias suivent. Hein, Marie-Philippe Poulin.
Qui a de l'intérêt
oui,
aussi,
exact,
c'est ça.
En partant. Fait que, tu sais, je suis pas derrière la Ligue, je suis pas impliquée, mais c'est vraiment quelque chose que je souhaite autant comme amateur que comme personne qui adore ce sport.
Bon, on parle d'argent, c'est pas signé encore. Est-ce que c'est possible de se soutenir financièrement seulement avec du hockey en tant que femme, avec toutes les inégalités qu'il y a?
Maintenant, oui, mais pas en salaire. Alors, je vous explique, les meilleures joueuses, dont Marie-Philippe Poulin, Sarah Nurse, Nathalie Spooner, Hillary Knight, ils ont assez de partenaires financiers pour bien gagner leur vie. Sauf que la réalité, c'est que si t'es pas bien représenté, si t'es pas active sur les réseaux sociaux, si tu parles pas bien ou tu te défends pas bien avec les médias, t'es pas le genre à être sur TikTok puis à faire des vidéos montage. Honnêtement, c'est ridicule, mais c'est vrai. Il y a des joueuses qui sont dans les meilleures au monde, mais qui sont plus low profile, je m'excuse en anglais. Ces filles-là, elles réussissent pas aussi bien que des joueuses qui sont bien représentées puis qui ont l'aspect je me présente bien, je suis sociable, j'ai confiance en moi. C'est moi, la femme que j'étais là à 20 ans, qui était hyper gênée puis qui parlait presque pas, jamais j'aurais gagné ma vie aussi bien que certaines le font maintenant. Fait que cette partie-là, ça me fait de la peine parce que je sais qu'il y en a qui sont aussi bonnes que d'autres, mais que probablement que les revenus sont complètement différents. Fait qu'il y a toujours le brevet du gouvernement comme athlète amateur qui est là. Les filles reçoivent un salaire d'Hockey Canada ou de USA Hockey, mais ça, c'est nos Nord-Américaines, les Européennes, ils ont rien de tout ça. Mm-hmm. Fait qu'il y a encore beaucoup d'inégalités de ce côté-là. Puis comme j'ai dit, les partenaires financiers font la différence dans la vie de plusieurs de nos athlètes. Tu sais, j'ai toujours dit, un moment marquant dans ma carrière à moi, ça a été les Jeux olympiques de Vancouver. Je me souviens d'être revenue de là, où on a gagné les deux, les femmes et les hommes. Puis dans les arénas, ça avait complètement changé comment on nous percevait.
Ah oui?
Fait que par exemple, avec les Canadiens, nous, c'était les Stars de Montréal à l'époque. On jouait à Étienne Desmarteaux, donc où j'ai grandi. Fait que l'association mineure de Rosemont, moi, j'ai grandi dans le comité des jeunes de Rosemont. Ça a toujours été spécial de jouer là. D'ailleurs, cette année-là, ils ont renommé la glace en mon honneur. C'est quelque chose que jamais je m'attendais. Fait que ça a toujours été super spécial de retourner là. Mais à partir de là, autant les garçons que les filles venaient nous voir pour prendre des photos, pour signer des autographes, nous reconnaissaient. Fait qu'on dirait que ça a comme complètement changé. Cette visibilité-là.
Ça prend souvent un coup d'éclat,
exact,
justement.
Exact. C'est pour ça que, tu sais, on parle souvent de, on devrait pas recevoir les Jeux Olympiques parce que ça coûte trop cher. Mais il y a tellement de recevoir les Jeux Olympiques qui ont un impact sur nos jeunes, que ce soit juste cette norme de sexe qui a changé plus vers l'égalité, que c'était autant on adore les femmes que les hommes qui jouent pour le Canada. Ben, autant de jeunes sont inspirés à faire différents sports parce qu'ils voient les Jeux Olympiques. Fait que ça a pas de prix. Quand les Jeux Olympiques sont en Europe pis que les compétitions sont à 3h du matin, les jeunes, ils regardent pas. Fait que pour moi, Vancouver, ça a été un moment marquant. C'est sûr qu'après ça, j'étais convaincue que la Ligue Pro allait fonctionner. Puis ça fait quand même
13 ans. Puis il y a eu des tentatives qui sont jamais abouties.
Exact.
Tu parlais tout à l'heure du fait que quand tu étais jeune, tu n'avais pas d'amis dans la cour d'école ou deux, trois amis.
Ouais.
Tu étais le gars manqué. Tu jouais avec les gars au hockey. Tu étais un peu délaissé. Les gars, eux, est-ce que ça a pris du temps avant de t'accepter avec eux? Où ils se sont aperçus, oh, un instant, là, ça, c'est une joueuse de hockey, on l'accepte dans notre gang.
Tu sais, je pense, une chose qui fait la différence, puis je le vois encore aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui, ben, il y a des ligues féminines, ce qui est absolument merveilleux, il y a la LHQ féminin, mais il y a encore beaucoup de filles à travers le Québec qui évoluent avec les garçons. Puis tu sais, ça commence vraiment avec le leadership, les entraîneurs, les gérants. Pour moi, dans mon cas, c'est le président du comité des jeunes de Rosemont, Joe Martucci, parce que j'ai commencé à jouer en janvier. Mon père, finalement, a dit oui. Ma mère m'a acheté ma première paire de patins. Il m'a amené voir un match de ringuette. Je voulais pas jouer à la ringuette, je voulais jouer pour les Canadiens de Montréal. Fait que finalement, il m'a trouvé une équipe. Une équipe a dit non, puis lui, Joe Martucci, a dit oui. Fait que j'ai joué l'équipe Atomsé en milieu de saison, puis je pense qu'on a gagné deux matchs dans cette demi-saison-là, puis je pense qu'il y en a gagné trois toute l'année, là. Tu vois le genre? Mais j'ai grandi avec ces gars-là. J'ai grandi au comité des jeunes Rosemont avec ces garçons-là, avec ces entraîneurs-là. Puis honnêtement, les gars avec qui je jouais, ils étaient fins pour la plupart. Ça s'est bien passé. Je me changeais avec eux et tout. Là, on n'avait pas de vestiaire séparé. Fait qu'au moins, je faisais partie de l'équipe. Tu sais, des fois, il y a des parents qui résistaient un peu à l'idée d'avoir une fille. Mais de façon générale, ça allait vraiment bien dans mon équipe. J'ai fait un voyage à 15 ans en France. On est allé deux semaines. On a joué genre 10 matchs de hockey en 15 jours. C'est la première fois que je prenais l'avion. Tu sais, il y a des moments comme ça. Finalement, j'ai fait le 2 lettres. J'ai joué, par exemple, ma dernière année, Midget 2B. Puis là, tu sais, une fois que c'est contact, les gars, c'est un peu un zoo, là. C'est comme qui peut frapper le plus fort, qui a le plus de pénalités, c'est quasiment ça. Mais moi, je jouais au hockey. J'ai jamais été quelqu'un qui prend beaucoup de pénalités. Je déteste, c'est une torture pour moi passer deux minutes au banc de pénalités. Je veux être sur la glace où je peux avoir un impact, tu sais. Puis ça a été un peu ça, tout ce que j'ai entendu. Mais moi, je me souviens quand j'étais jeune, mon père m'avait dit, Caro, tu contrôles pas ce que les autres te disent, mais ouais. Tu contrôles ton attitude, comment tu réagis. Puis la seule chose que tu contrôles, c'est ce que tu fais sur la glace pour aider ton équipe. Fait que j'ai toujours joué au hockey. Tu sais, ma dernière année, mais Midget 2B, j'ai eu une de mes meilleures années côté offensif de ma carrière. Puis je jouais avec un excellent centre, un autre super bon ailier. Puis nous, on jouait au hockey. Fait que ça allait bien. Fait que ces gars-là, ils me respectaient puis ils m'appréciaient. Fait que ça m'a aidé dans mon développement. Ben, j'ai commencé à 9 ans, c'est quand même tard, là.
Quand même.
Ouais.
On est avec Caroline Ouellette aux amateurs de sport. On parlait de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey qui pourrait voir le jour en janvier prochain. Il y a le copropriétaire Mark Walter des Dodgers de Los Angeles qui est impliqué dans l'aventure. Il y a un message. Il n'y a pas assez de promotion, point final. J'espère que le monsieur des Dodgers va mettre beaucoup d'argent sur la promotion de la nouvelle Ligue. Ça pourrait tout changer. Il ne suffit pas que les gens soient attirés à aller voir un match et après, ils seront attachés. J'aime beaucoup le jeu féminin. C'est très divertissant.
Yep.
Alors voilà, c'était
entièrement d'accord.
Un commentaire que nous avons reçu. On parle beaucoup de ta carrière internationale, puis on parlait de ton été tantôt qui a été très, très, très occupé. Tant de la renommée de la Fédération internationale de hockey sur glace, t'as été nommée chevalière de l'Ordre national du Québec aussi, et en même temps, t'apprenais que t'allais au temple de la renommée du hockey de la Ligue nationale. Beaucoup d'émotions à emmagasiner en même temps.
Ouais.
Comment te gérer tout ça?
Écoute, c'était vraiment un moment là, que encore aujourd'hui, je peux pas croire ce qui est arrivé. Tu sais, c'est quoi les chances que ce soit la même journée où le matin, je pars avec toute ma famille dans mon auto. On s'en va à l'Ordre du Québec. On arrive là, on est tous regroupés, les récipiendaires de la journée. Ma famille est ailleurs. On attend l'arrivée du premier ministre François Legault. Ça s'en venait dans 5-10 minutes. Fait que je sors, j'utilise la salle de bain. Je vois que j'ai manqué 6 appels du Temple de la Renommée. Fait que là, j'essaie de rappeler. Je tombe sur le message automatique du Temple de la Renommée. Là, je me dis, OK, ben c'est bizarre. J'avais appelé ce numéro-là quelques mois plus tard quand j'ai amené mon équipe, les Singers de Concordia, au Temple de la Renommée, voir ça l'année passée. Enfin, je me suis dit, ils me rappellent peut-être pour me vendre encore des billets d'équipe. Puis finalement, c'est ça. La cérémonie a commencé, puis ça a duré un peu plus que 2 heures. Donc, je pense que je suis une des seules qui a jamais répondu à Lanny McDonald, puis qui a appris la nouvelle après la cérémonie sur le cellulaire d'une attachée de presse qui était à l'Ordre du Québec. Puis mais ça a été vraiment un moment magique parce que j'ai appris en même temps que mes parents, que ma famille, que le premier ministre qui était hyper fier pour moi, tout le monde me félicitait. Fait que c'était vraiment quelque chose d'hyper spécial. J'ai eu la chance de rencontrer Guylaine Tremblay, Jeannette Bertrand. Tu sais, honnêtement, c'est connaissance-là, on joue pas au hockey pour ça. D'ailleurs, je ferais n'importe quoi pour retourner en arrière puis être encore athlète. Mais pour moi, c'est hyper spécial parce que c'est un peu une façon de remercier mes parents. Tout ce qu'ils ont fait pour moi, on était vraiment une famille moyenne. Ma mère était infirmière toute sa vie, presque 40 ans. Mon père était facteur dès qu'il a terminé l'école. Je les ai vus comment ils ont travaillé fort toute leur vie. Je faisais un camp de hockey par été. C'était tout ce qu'on pouvait se permettre. Je jouais au baseball aussi en même temps. Tu sais, comme quand tu te rends à l'équipe canadienne, t'as la chance de jouer 16 ans. Ta façon de les remercier, c'est de les amener à tes tournois avec toi. Puis ces petits moments-là où ils sont tellement fiers qu'ils en pleurent, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai hyper hâte en novembre de pouvoir amener mon père, ma mère, ma tante, ma sœur, puis qu'on puisse vivre ça en famille.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Est-ce que c'est le summum, ça, le temple de la renommée de la Ligue nationale? Parce que tantôt, tu disais, Fédération internationale de hockey sur glace, ça représente beaucoup pour moi parce que c'est une carrière internationale. Mais quand tu reçois l'appel, là, même si tu l'as pas pris, mais quand tu sais que tu vas être admise au Temple de la renommée de tous les grands joueurs de la Ligue nationale, de Kim Saint-Pierre l'année dernière qui a été admis, est-ce que ça a une représentation particulière?
Absolument. Je pense que c'est le Temple de la renommée que tout le monde connaît puis que tout le monde suit passionnément. Tu sais, l'année passée, j'ai eu la chance d'aller vivre ça avec Kim. Kim, c'est une de mes meilleures amies, une coéquipière en or qui a eu un impact extraordinaire sur ma carrière. Elle commençait son speech, je me suis mis à pleurer, puis je comprends pas encore pourquoi, mais c'était tellement magique comme moment, puis son discours était tellement spectaculaire que j'ai pleuré encore plus, mais tu sais, c'est de se rappeler de tous ces souvenirs-là, puis de revivre la carrière de Kim avec elle, puis oui, c'est, je pense, un honneur qui... J'ai pas vraiment de mots pour le décrire, mais je pense que c'est vraiment l'honneur le plus grand pour une joueuse ou un joueur de hockey, parce que la Ligue nationale de hockey, c'est la ligue de hockey qui est la plus suivie, puis qui... Ouais. Alors,
As-tu déjà pensé à ton discours du mois de novembre
prochain? J'ai réalisé pourquoi c'était le discours le plus stressant à planifier. C'est que c'est cette peur d'oublier
des gens.
Oui, d'oublier des gens qui ont eu un impact phénoménal dans ma carrière. Je pense que c'est ça. Parce que j'en fais plein de discours. Tu sais, je suis plus gênée maintenant. Je fais des conférences devant une équipe de 10, une équipe de 1000. Ça me dérange pas, mais tu sais, je sais que là, il va falloir que je retourne en arrière dans cette carrière-là. J'ai commencé à 9 ans, puis toutes les personnes qui ont eu un impact incroyable sur ma carrière, puis de pas en oublier, puis de pouvoir les célébrer en même temps que je reçois cet honneur-là. Fait que...
Je veux pas que tu me fasses ton discours, puis je veux pas que tu me nommes tous les gens qui ont eu un impact sur ta carrière, mais quand tu regardes en arrière, justement, quelle personne te vient tout de suite en tête, mis à part tes parents qui ont toujours été là, qui ont fait des sacrifices, là, et que tu dis, ouais, si cette personne-là n'avait pas été là, j'aurais peut-être pas la carrière que j'ai eue.
Ben, il y en a peut-être deux. La première, c'est France Saint-Louis, parce que ça a été ma première inspiration. Quand j'ai fait son école d'hockey, je jouais avec les garçons. Donc, j'avais 12 ans. Elle a cru en moi, elle m'a aidé. Quand j'ai été invitée à mon premier camp d'équipe Québec à 15 ans, ça a été vraiment ma première expérience au hockey féminin, mon premier rêve d'aller aux Jeux du Canada. Je me souviens de l'avoir rencontré encore à ce moment-là, Danielle Goyette aussi, cet été-là. Puis c'est à 19 ans de faire mes premiers championnats du monde alors que France avait 40 ans, faisait ses derniers. Puis c'est Danielle Sauvageau, l'entraîneur, elle nous avait mis co-chambreuse. Moi, j'étais hyper nerveuse. Soudainement, je jouais avec mes idoles que je regardais à la télé. Je pensais que j'étais pas assez bonne pour être là. Puis France m'avait tellement aidé à prendre confiance, à croire que je pouvais avoir un impact dans cette équipe-là, que je méritais d'être là. Puis on a remporté ce championnat du monde-là, mais c'est surtout après ça. Moi, j'ai fait l'équipe canadienne sans être une athlète. Je peux l'admettre maintenant, là, parce qu'on n'était pas encadré dans ce temps-là, on n'était pas suivi. Fait que j'étais talentueuse, j'étais grande, j'étais rapide, j'étais forte, mais j'étais pas une athlète. Fait que mon premier camp, j'étais pas en forme. Pendant toute France, à 40 ans, c'était elle qui courait le plus longtemps au léger boucher, le test, le bip-bip navette. Là.
Ah oui?
Oui. Fait qu'elle m'avait rencontré pour me dire, Caro, c'est une chose de faire l'équipe canadienne, mais si tu veux la faire pendant plusieurs années, il faut que tu mettes ton conditionnement physique en avant de tes priorités. Puis c'est ce type de conversation-là courageuse qui est dure à avoir là, avec tes amis. Puis c'est ça le leadership. Puis je l'ai appris au cours de ma carrière quand je suis devenue assistante capitaine. C'est ça le plus dur. Là. Dire à une fille que t'adore, qu'elle a une mauvaise attitude, qu'elle travaille pas assez fort, qu'elle accepte pas son rôle ou qu'elle est pas assez en forme. Puis France, elle a eu cette conversation avec moi, fait que j'ai fait complètement un 180. Puis honnêtement, maintenant, je pense que c'est pour ça que j'ai été presque pas blessée. C'est pour ça que j'ai pu avoir un impact sur la glace, hors glace. J'ai pu devenir une leader parce que aussi France était une des meilleures leaders avec qui j'ai joué. Autant elle était compétitive, qu'elle était attentionnée aux autres, qu'elle voulait gagner chaque match, qu'elle jouait de la même façon, peu importe le score. Tu sais, des fois, au hockey féminin, on est dans des matchs où on mène par beaucoup. Mais quelque chose que France, Marie-Philippe et moi, on a en commun, par exemple, c'est qu'on joue de la même façon, peu importe l'adversaire, peu importe le score, peu importe avec qui on joue. Pis ça, c'est elle qui me l'a enseigné. Tu sais, c'est rare qu'à l'âge adulte, t'as encore la même idole que quand t'étais enfant. Mm-hmm. Pour moi, c'est France. C'est une super bonne amie maintenant. Fait que je serai toujours reconnaissante de ça. Puis l'autre, ben, c'est Julie, ma conjointe. Parce qu'on est à peu près opposés. Moi, comme leader, j'étais vraiment focus sur le résultat, sur gagner, sur compétitionner, sur peu importe ce qu'on a besoin, il faut gagner. Mais le plus important, c'est les relations. Mmh. Tu sais, je le dis tout le temps, maintenant, je coach à Concordia avec Julie, puis c'est pas vraiment du hockey qu'on fait, on fait des relations humaines. Puis Julie m'a appris à être une meilleure coéquipière, une meilleure leader, puis être attentionnée aux autres, à leurs émotions, à leurs feelings, puis à réaliser que si je les aidais à se sentir que rien pouvait les arrêter, ben j'allais gagner. On allait gagner. Fait que c'est probablement les deux personnes qui ont eu le plus grand impact sur ma carrière.
Très intéressant, Caroline Ouellette. Éric, wow, quelle femme inspirante, s'exprime parfaitement. Bravo, Caroline. Luc, papa d'une fille qui a eu la chance de participer à la célébration. Caroline Ouellette comme joueuse individuelle avec son équipe et vivre sa première expérience d'arbitre. Merci pour tout ce que tu fais pour le hockey féminin. Il y a quelqu'un d'autre qui écrit aussi. Tu étais là en 2014 quand vous avez gagné la médaille d'or. Vous perdiez 2-1, touche le poteau, ça revient. Finalement, vous gagnez. Bravo pour cette médaille d'or. Les femmes offrent un bon spectacle. Pas obligé de tout gâcher avec des mises en échec. Ça, c'est Steve qui nous écrit.
Juste contact physique.
Juste contact physique, oui, voilà. Et quand j'étais jeune, on avait deux filles dans notre équipe. Je te garantis que sans elles, il n'y aurait pas eu une aussi belle ambiance et une aussi belle chimie d'équipe. Alors voilà les quelques commentaires reçus. On a parlé de ta carrière de joueuse. Tu es entraîneuse, tu l'as dit aussi avec Concordia, également avec Hockey Canada, adjointe. Est-ce que le fait de demeurer dans le monde du hockey fait en sorte que ça te fait oublier un peu que tu es une jeune retraitée et que tu ne joues plus?
En fait, j'avais vraiment peur au moment où j'allais devoir arrêter de jouer parce que j'ai tellement trippé et aimé ça. Puis pour moi, il n'y avait jamais trop de matchs, trop de pratiques, trop d'entraînements. Mais je pense que de devenir maman m'a aidé à transitionner puis à réaliser que finalement, quand Liv, ma plus vieille, que j'ai portée, est venue au monde, j'ai recommencé à jouer quelques semaines plus tard, puis je suis contente de l'avoir fait, puis je voulais le faire, mais j'ai réalisé que je voulais être à la maison.
Ah oui?
Alors, ça m'a permis de finir ma saison et de partir en paix de mon sport et éventuellement d'arriver à un moment où honnêtement maintenant je suis capable de vivre les mêmes émotions ou presque à travers mes athlètes, cette même fierté là, cette émotion, ce yes là que tu célèbres, peut-être pas la chair de poule des fois que j'avais quand je te signais là, c'est pas un gros but, mais presque comme coach derrière le banc. Tu sais, il y a 2 ans avec Concordia, on a remporté le championnat RSEQ, le championnat national. L'année dernière, j'ai vécu mon moment le plus déchirant de ma carrière. On menait en finale du championnat canadien jusqu'à 1.8 seconde. Les Cougars de Montréal ont égalisé puis ont gagné en prolongation. Tu sais, j'avais jamais vécu quelque chose du genre. Julie, elle m'a dit, moi, j'ai vécu Sochi. Alors, ça l'a mis les choses
bienvenue
en perspective.
Bienvenue dans le club.
Mais c'était vraiment déchirant. Ça nous a fait tellement de peine parce que l'année d'avant, on avait perdu 12 joueurs après le championnat national. Fait que c'était une équipe complètement nouvelle qui a réussi quand même à remporter encore un championnat provincial puis se rendre quand même en finale du championnat national. Fait que c'est tout un exploit. Ça aurait été quasiment encore plus difficile de le remporter cette deuxième fois-là. Mais là, on revient encore plus motivé à l'année 3. On a une de nos meilleures joueuses, Rosalie Bégin-Sir, qui vient de nous apprendre qu'elle va revenir avec l'équipe. Elle avait signé un contrat avec la Force. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Alors, elle est de retour. On a hyper hâte de ça. C'est une de nos meilleures joueuses. Puis, on en va encore avoir une excellente équipe cette année.
La place des femmes dans le sport. Tu parles de Marie-Philippe Poulin, qui est engagée par le Canadien. Émilie Castonguay, qui a été engagée par les Canucks de Vancouver. Il y en a d'autres aussi, un peu partout. Que ce soit au hockey ou dans n'importe quel sport professionnel en Amérique du Nord. Est-ce que c'est... Comment tu vois ça, ces nominations-là? Tu vas me dire c'est des bonnes nouvelles, mais est-ce que tu penses que les organisations sportives professionnelles le font par acquis de conscience en se disant « OK, on va nommer une femme pour montrer aux gens qu'on leur fait une place » ou c'est véritablement des décisions prises et on y va au meilleur de la compétence?
Je pense que la réponse serait probablement les deux, dépendant de qui prend la décision. Mais honnêtement, je pense que de plus en plus, les meilleurs leaders réalise que de s'associer ou s'entourer de leaders qui les complètent et qui sont différents. Je pense que souvent les femmes, justement, on est plus liées sur les relations, sur l'échange, sur la communication versus être transactionnel, qui souvent, de façon générale, souvent les hommes sont très business, transaction, le résultat final, c'est ça qu'on va arriver. Fait que je pense que de plus en plus de leaders hommes se rendent compte que de s'entourer de femmes qui sont compétentes, qui peuvent les challenger, va les aider à avoir une meilleure business, que ce soit en sport ou dans n'importe quel domaine. Puis oui, il y a de plus en plus de femmes qui sont qualifiées puis qui peuvent aspirer à ces rôles-là. Tu sais, je te donne un exemple avec l'équipe canadienne. J'ai la chance de travailler avec Troy Ryan. Puis moi, j'ai toujours dit comme athlète que ça me dérange pas que ce soit un homme ou une femme. Mon coach, je veux la personne la plus qualifiée. Puis Troy Ryan, c'est un homme qui est extraordinaire, qui est axé sur la collaboration, sur écouter ses athlètes, sur écouter ses adjoints. Mais j'ai travaillé avec des coachs en chef où tout ce qu'on faisait, les adjoints, hommes et femmes, c'était pousser les rondelles, là. Fait que...
C'était lui qui venait ou ouais, elle qui venait, là.
Exact, exact. Lui ou elle, exact. J'ai vécu les deux. Fait que je pense que c'est vraiment des cas personnels. Je pense que, par exemple, Émilie Castonguay est absolument extraordinaire dans son rôle. C'est une femme qui est devenue avocate, qui est devenue agent de joueuse, qui s'est occupée d'Alexis Lafrenière, qui a eu cette opportunité-là comme GM, qui adore son travail. C'est sûr que moi, j'aimerais ça l'avoir travaillé au hockey féminin éventuellement, parce que je pense que c'est une brillante, j'ai juste hockey mind, mais un cerveau hyper brillant qui pourrait nous aider dans notre sport. Puis c'est sûr qu'on veut pas voir toutes les meilleures femmes partir pour le hockey masculin. On veut aussi qu'il y en ait qui contribuent au développement du hockey féminin. Mais toutes celles à qui j'ai parlé qui ont la chance de travailler dans la Ligue nationale adorent ce qu'elles font. Puis oui, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des personnes qui sont lentes à changer ou qui sont pas nécessairement ouvertes à changer. Donc oui, il faut continuer à se battre pour ça puis continuer à faire notre place.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite des choses? Tu vas avoir un automne quand même assez chargé. Ce rôle d'entraîneuse-là te passionne toujours autant?
Oui, absolument. J'adore ce que je fais. Puis, tu sais, mon cadran sonne à 6 heures. J'ai pas l'impression d'aller travailler. Donc, pour moi, de voir mes athlètes être engagés, vouloir s'entraîner, vouloir se développer, faire du vidéo avec elles, regarder leurs séquences, échanger. Des fois, devoir avoir des conversations courageuses et difficiles. Ou, tu sais, on dit toujours, Julie et moi, tous nos athlètes vont pleurer dans notre bureau à un moment. Des fois, c'est nous qui pleurons aussi. On pleure tous ensemble. Les voir grandir à travers ça, c'est passionnant.
Caroline Ouellette, ce fut une heure extraordinaire. Merci de ta présence en studio. Vraiment apprécié. Bonne saison avec les Stingers et l'équipe nationale également.
Merci, Yannick.
Merci, Caroline.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.